À suivre dans quelques minutes, notre invitée Afrique, Inda Bazoum, fille de Mohamed Bazoum, le président déchu du Niger. Sur RFI, elle lance un appel de détresse pour la libération de ses parents. On l'écoute dans un instant. Mais d'abord les sports, Antoine Grenier, bonjour.
Bonjour Arnaud.
Le football à la une, Paris veut retrouver les frissons de 2020 et rêve donc de finale de Ligue des Champions.
Le PSG accueille le Borussia Dortmund au Parc des Princes ce mardi pour une demi-finale retour qui ne lui laisse pas le choix. Les Parisiens battus 1-0 au match aller doivent s'imposer par deux buts d'écart s'ils veulent se qualifier. Les Allemands, eux, arrivent à Paris avec l'intention de capitaliser sur le succès du match aller et ils compteront pour cela sur leur attaquant ivoirien Sébastien Allaire, qui évoluera presque à la maison, lui, le natif de la région parisienne, Cédric de Oliveira.
Mercredi dernier, au Signal Iduna Park, il n'a pas joué une seule minute. À peine remis d'une blessure à la cheville gauche qu'il traîne depuis quelques mois, Sébastien Allaire a regardé du banc de touche ses coéquipiers dominer le PSG, mais il les a aidés à sa manière.
C'est la vie, il faut savoir être patient et mon heure viendra, j'en suis sûr. Mais j'ai été là pour l'équipe, j'ai apporté ce que je pouvais. C'était pas grand chose, mais on a gagné, on fait partie du groupe.
Incertain à cause de sa cheville fragile, l'Ivoirien est bien dans le groupe du Borussia présent à Paris. Sans doute pas titulaire, mais possible remplaçant selon le scénario de la rencontre. Un rendez-vous particulier pour le tout récent vainqueur de la CAN, lui qui est né à Ris-Orangis au sud de la capitale, à quelques kilomètres du Parc des Princes.
C'est clair que quand on vient de pas très loin du parc, c'est clair que ça motive encore plus et ça met encore plus d'étoiles dans les yeux. Mais on ne sera pas du côté parisien. Voilà.
Souvent blessé cette saison, Allaire a pourtant réussi à être décisif à plusieurs reprises, buteur en finale de la CAN avec les éléphants, mais aussi avec le Borussia en quart de finale de la Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid. Il se verrait bien faire la même chose au Parc des Princes.
Cédric de Oliveira, PSG Borussia Dortmund, ce sera à vivre en direct et en intégralité sur RFI, coup d'envoi 19h, temps universel.
En basket à présent, retour sur le parquet ce mardi pour la Basketball Africa League.
La conférence Sahara reprend à Dakar après une journée de repos. Les Tunisiens de Monastir affrontent les Nigérians de Rivers Hoopers, leader invaincu lors des deux premières journées. Premier match à 16h, temps universel. À 19h TU, les Sénégalais de l'AS Douane, deuxième au classement, se mesurent au Rwandais d'APR.
En cyclisme, le Tour du Togo revient dans le calendrier. C'est une première depuis 2019.
Un Tour du Togo en sommeil à cause de la pandémie de Covid et du décès en 2021 de Francis Ducreux, principal promoteur des courses cyclistes du continent. Cette année, la Fédération togolaise de cyclisme a trouvé un nouveau partenaire pour financer le Tour, d'où le grand ouf de soulagement du président de l'instance, Kofi Podo, séduit par ce nouveau promoteur.
Déjà, à voir comment il s'est engagé, il n'est pas si exigeant. Les contacts, les discussions qu'on a eues, tout ce qu'on a eu à dire jusqu'ici ensemble avec ce nouveau promoteur, avec mon âge. Quand vous discutez avec quelqu'un, ce que la personne dégage, à partir de ce que la personne vous dit, vous allez sentir si ce quelqu'un-là, ce qu'il va faire avec vous, sera quelque chose de confiance, de vrai, de vrai, et pour le présent. Et pour l'avenir.
Kofi Podo, le président de la Fédération togolaise de cyclisme avec Tétéa Hadji. La 29e édition du Tour du Togo, ça sera du 3 au 9 juin prochain.
Merci Antoine Grenier, vous revenez tout à l'heure. Dans une demi-heure, on va reparler Ligue des Champions et PSG. On entendra Luis Enrique. Faut pas me dire de bêtises, je les répète à l'antenne. À tout à l'heure Antoine.
RFI, toute l'actualité, Arnaud Pontus.
Avec à la une du prochain journal dans moins d'un quart d'heure, le Proche-Orient et les dernières informations en provenance de la bande de Gaza. L'armée israélienne dit avoir pris le contrôle du point de passage de Rafah, la grande ville du sud de l'enclave, sous la menace imminente d'une vaste offensive israélienne. Rafah, sous d'intenses bombardements depuis hier, on fera le point dès le début du prochain journal avec notre envoyé spécial permanent à Jérusalem, Sami Bourlifa. Également à la une de l'actualité, le Tchad au lendemain de la présidentielle. Les opérations de dépouillement sont en cours. Résultat publié le 21 mai. La suite et la fin ce mardi de la visite d'État du numéro 1 chinois en France. Emmanuel Macron part avec Xi Jinping dans les Pyrénées, dans le sud du pays. Une escapade dite personnelle qui est censée permettre un dialogue plus direct sur la guerre en Ukraine ou encore les désaccords commerciaux. On y reviendra.
RFI Matin.
Elle s'appelle Inda. Elle est l'un des 5 enfants du président du Niger, Mohamed Bazoum, le président déchu, séquestré depuis 9 mois à Niamey avec son épouse. Ce matin, en exclusivité sur RFI, Inda Bazoum lance un appel de détresse. Elle accuse l'ancien président, Mahamadou Issoufou, non seulement d'être à l'origine du putsch qui a renversé son père en juillet dernier, mais aussi d'être derrière les poursuites judiciaires dont son père est menacé devant la cour d'État de Niamey. Inda Bazoum, qui vit à l'extérieur du Niger, est notre invitée. Elle répond aux questions de Christophe Boisbouvier.
Inda Bazoum, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans une tribune, vous dites que le cerveau du putsch n'est autre que l'ancien président Mahamadou Issoufou, l'ami de toujours de votre père. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
À son comportement. Tout d'abord, il n'a jamais condamné le putsch. Pire, il s'affiche quand même aux côtés des putschistes. Il est allé présenter ses vœux pour l'Aïd et saluer Tchani au palais présidentiel. Quel démocrate fait ça ? Il était l'ami de notre père, mais n'a fourni aucun effort pour lui. Il n'a jamais cherché à le rencontrer, ni à exiger sa libération. Il n'a jamais cherché à rentrer en contact avec nous, les enfants. Chose plus curieuse encore, lorsque la communauté internationale souhaitait exiger un retour à l'ordre constitutionnel, au lieu d'abonder dans leur sens, il a plutôt plaidé pour une courte transition, une nouvelle constitution et de nouvelles élections, sûrement pour pouvoir revenir au pouvoir. Lui qui se voulait grand démocrate est en fait un grand dictateur.
Est-ce que vous pensez que Mahamadou Issoufou a pris le train en marche, qu'il a profité du putsch pour faire ce que vous dites ?
Ah non, pas du tout. C'est bien lui le commanditaire du putsch. L'idée a mûri dans la tête d'une seule personne, Mahamadou Issoufou. Mon père était sûrement devenu trop gênant pour les gens de son clan. Du temps de mon père, quand même, il faut dire que la lutte contre la corruption était bien lancée. Elle avait permis l'arrestation de 40 cadres par la justice, dont les membres du parti de mon père. Ce qui est inédit au Niger et qui prouve que la justice était indépendante. Il était en train de mettre fin à l'affairisme, à la gabégie, au sommet de l'État. Et c'est là qu'Issoufou s'est senti en danger par les intérêts de ses amis et certainement les siens.
Donc il a véritablement dupé votre père dans les derniers jours d'avant le 26 juillet ?
Beaucoup plus, il l'a trahi. Il a trahi tout un peuple, il a trahi ses amis de lutte. C'est comme un cauchemar pour nous.
Inda Bazoum, vous allez plus loin puisque vous dites aujourd'hui que la menace de levée d'immunité de votre père, afin de pouvoir le juger pour haute trahison, c'est une manœuvre de l'ancien président Issoufou lui-même.
Oui, tout à fait, parce que face à la résistance de mon père à son refus de démissionner, je pense que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas imaginé au début. La dernière cartouche d'Issoufou serait de lever l'immunité de mon père pour le faire condamner, de sorte à le rendre inéligible, pour laisser le champ libre à Issoufou de cette manière. Et ils ont créé de toutes pièces une nouvelle cour d'État qui se substitue au tribunal de la Constitution, à la tête de laquelle est nommé un proche d'Issoufou.
Alors l'audience de la cour d'État de Niamey, c'est vendredi prochain. Qu'est-ce que vous attendez des magistrats de cette cour ?
J'espère qu'ils feront preuve d'impartialité. C'est un rendez-vous avec l'histoire qui se présente à eux. Il faut qu'ils en aient conscience.
Alors, si votre père démissionnait de ses fonctions de président de la République, tout irait mieux pour lui, font savoir les officiers putschistes. Pourquoi refuse-t-il de démissionner ?
Alors, je ne pense pas que tout irait mieux pour lui, non. Et mon père ne démissionne pas parce que c'est un démocrate sincère. Il est courageux et ce combat, il le mène pour le Niger tout entier et pas que pour lui. C'est un homme de principe, mon père, et je peux vous assurer qu'il continuera le combat.
En janvier, Inda Bazoum, votre frère Salem, qui était séquestré avec vos parents, a été libéré. Est-ce que vous avez cru à ce moment-là que c'était bon signe pour vos parents ?
Oui, bien sûr. C'était déjà un premier soulagement pour nous que notre petit frère sorte de cette prison. On a espéré et rien n'est jamais venu et c'est très dur pour nous. Vraiment très dur.
Alors, c'est le Togo et le président Faure Gnassingbé qui ont aidé par leur médiation à la libération de votre petit frère. Est-ce que ce pays ou d'autres pays de la CEDEAO peuvent intercéder en faveur de votre père et de votre mère ?
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, nous appelons les démocrates sincères et la CEDEAO qui a toujours rendu hommage à la bonne gouvernance de mon père, à nous aider à obtenir la libération de nos parents et à rétablir la démocratie au Niger. Il est du devoir des chefs d'État africains, effectivement, de défendre la démocratie et d'obtenir la libération de nos parents.
Donc c'est un appel que vous leur lancez.
C'est un appel que je lance, effectivement. Un appel de détresse.
Inda Bazoum, c'est la première fois que vous vous exprimez de vive voix dans un média international. Je sais que c'est pas facile pour vous de prendre la parole. Pourquoi tenez-vous à le faire aujourd'hui ?
Parce que l'heure est grave. Si je sors du silence, c'est parce qu'il y a urgence. J'ai décidé de prendre la parole au nom de mes frères et sœurs pour dénoncer cette injustice et surtout désigner l'unique responsable. Nous nous sentons abandonnés et on espère sincèrement que la communauté internationale n'oubliera pas nos parents.
Avez-vous peur qu'on oublie vos parents ?
Effectivement, c'est une peur, mais nous espérons que mon appel sera entendu et que notre voix sera portée loin pour la libération de nos parents et la démocratie au Niger.
Inda Bazoum, merci.
Inda Bazoum, l'un des 5 enfants du président nigérien Mohamed Bazoum, président déchu. Elle répondait à Christophe Boisbouvier. Pour l'actualité des matières premières, nous sommes aujourd'hui avec Anne Verdaguet. Le réchauffement climatique et notamment la sécheresse a des conséquences de plus en plus importantes sur la production de certains minerais critiques pour la transition énergétique. C'est ce qu'affirme un rapport du cabinet d'audit britannique PwC. Ainsi, plus de 70% de la production de cuivre, de cobalt et de lithium pourrait être confrontée à un risque de sécheresse important, voire élevé, d'ici à 2050.
Le rapport a analysé 3 minerais critiques, le cuivre, le cobalt et le lithium, ainsi que 3 cultures essentielles, le blé, le riz et le maïs, et 3 des métaux vitaux, le zinc, le fer et l'aluminium. Ces 9 matières premières sont toutes confrontées à un risque exponentiel de chaleur et de sécheresse dans les décennies à venir. 90% de la production mondiale de riz pourrait être confrontée à un stress thermique important d'ici 2050. Même chose pour plus de 30% du maïs et 50% du blé. Un scénario qui s'avère inéluctable même si les émissions de gaz à effet de serre réduisent. Or, ces 3 cultures représentent 42% des calories consommées dans le monde. Le risque le plus important porte sur le riz, qui est le plus souvent cultivé dans des conditions de risque sécheresse important ou élevé. Les minerais critiques cuivre, cobalt et lithium ont la particularité d'être aussi des éléments essentiels pour conduire la transition engagée vers les énergies renouvelables et la décarbonation. Ces 3 minerais font partie intégrante de l'électronique et des technologies d'énergie propre. Là encore, les prévisions sont extrêmement pessimistes puisque plus de 70% de la production de cobalt et de lithium pourrait être confrontée à un risque de sécheresse important, élevé ou extrême, même si le monde réduisait considérablement ses émissions de carbone. PwC note dans ses conclusions qu'il reste beaucoup à faire pour atténuer ces risques, car si de nombreuses entreprises se concentrent déjà sur la protection de leur personnel et de leurs actifs physiques contre les risques climatiques, elles doivent faire plus pour adapter leurs moyens et leur mode de production, ainsi que leur consommation d'énergie. Elles doivent aussi comprendre leur impact sur le dérèglement climatique, qui menace sérieusement et de manière croissante la capacité mondiale à produire des biens essentiels dans l'alimentaire, mais aussi des matériaux eux-mêmes nécessaires à la transition vers le net zéro.
Les matières premières, Anne Verdaguet. Grand reportage aujourd'hui dans l'ouest du Cameroun. Depuis 4 ans, cette région francophone subit des attaques attribuées aux séparatistes anglophones. Bilan de la dernière attaque, 9 morts, 10 personnes enlevées. C'était à Bamenyan, un petit village enclavé. Les populations des villages de l'ouest du Cameroun apprennent donc à vivre avec les risques d'incursions et de violences. Grand reportage de Richard Onanena.
Le marché de Bamenyam ne paye pas de mine. Quelques stands, un salon de coiffure et 10 de boutiques dont la moitié est partie en fumée le 21 novembre 2023 après une attaque revendiquée par les séparatistes anglophones. Maurice Ngonchue Nichio, 55 ans, coordonne le comité de vigilance du village.
À 16h, le 20 novembre, a été alerté que les gars là sont à Bamenkoupi, plus de 50 motos. Nous aussi, on a renseigner le FMO. J'ai passé la nuit sur le marché avec mes gars. À 5h maintenant, ils avaient déjà entouré presque tout le marché. Ils ont tué une personne. Quand on a compris qu'ils étaient déjà à 1 km, je suis monté au camp. Quand l'attaque a commencé, on m'a suivi jusqu'à la chefferie en tirant au moins 8 coups de fusil. Hein, c'est le bon Dieu qui m'a fait m'échapper. Ouais.
Toit éventré par les flammes, mur noirci par la fumée, le garage de Sébastien Thio à l'entrée du marché est un champ de ruines. Le 21 novembre, il a été ciblé par les séparatistes qui ont mis le feu chez lui.
Ils ont dit, c'est ici que les policiers font le contrôle et prennent notre argent.
Voilà ce qu'ils ont dit. Ils croyaient qu'il y avait les gendarmes dedans, alors qu'il n'y avait aucun gendarme dedans. On était à la chambre au nombre de 3. Quand le feu était aggravé, J'ai cassé la porte derrière.
Tu vois, les taux l'ont brûlé. Il y avait quoi dans la maison?
Ça, c'était le comptoir des pièces. Mmh. Il y avait un lit ici. En journée comme ça, quand je me reposais, je me repose sur le lit.
Tout ça a brûlé?
Tout est brûlé. Même l'argent qu'il y avait, l'argent d'espèce, il y avait. Mon collègue qu'on a fait ensemble, là, il a aussi gardé son argent, son permis de conduire, avec sa carte nationale.
Et aujourd'hui, comment vous faites pour vivre? Vous réparez toujours des motos?
On est toujours là. Petit à petit, on a force que forcer. Ce qui vient faire, ce qui ne vient pas, et ça, on reste toujours tranquille. Toute ma vie était que ici dedans. J'avais tout gardé que ici dedans. Quand j'avais les pièces là, je comptais sur ça pour vivre à la maison. J'ai une grande famille.
Une femme, des enfants?
Oui, une femme avec les enfants. Je suis un héritier. J'ai deux enfants. Mm-hmm. Je suis une succède d'un grand conception. Oui. Avec toute la famille que le père m'a laissée. Bon, c'est dur pour moi.
Cameroun, les échos de la crise anglophone dans la région de l'Ouest. Un grand reportage de Richard Onanena à retrouver à 19h40, temps universel. Et à retrouver tout de suite sur RFI, c'est Nathalie Amar. Bonjour Nathalie.
Bonjour Arnaud, bienvenue à vous qui nous rejoignez. On est ensemble jusqu'à 10h RFI matin. Toute l'actualité de ce 7 mai est d'abord l'espoir déçu d'une trêve à Gaza. Israël a lancé hier son offensive sur Rafah alors que le Hamas venait de donner son accord à une cessation des combats. On est à Jérusalem dans le prochain journal. Au programme encore les élections européennes. On continue d'entendre les représentants des principales listes en course le 9 juin. Notre invité aujourd'hui, le porte-parole de la campagne de Renaissance, Clément Beaune. Vous restez avec nous dans une minute, le journal.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Après avoir remporté l'élection présidentielle en mars dernier avec 87% des voix, Vladimir Poutine prête serment ce mardi pour un cinquième mandat. Quelle image vous renvoie le chef du Kremlin? Décrié en Occident, Vladimir Poutine est-il populaire dans votre pays?
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h.
À tout à l'heure sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide et ses invités convient 8 milliards de voisins à témoigner sur l'évolution de leur mode de vie.
Aujourd'hui,
télévision, radio, réseaux sociaux, presse écrite, notifications, comment faire face à ce trop-plein d'informations?
Demain,
sujet éducation, le redoublement. Est-ce une chance ou une vexation pour les élèves? Quelles sont les alternatives au redoublement?
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide, du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.